dirait des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Mickaël Goncalves,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. C'est une phrase mélodique connue dans le monde entier. Le boléro, un des tubes de la musique classique, l'une des œuvres les plus jouées au monde, écrit en 1928 par Maurice Ravel. Mais qui était ce génial compositeur? Comment est-il devenu l'une des plus influentes figures de la musique française du début du XXe siècle? À quelle source est-il abreuvé? Qu'a-t-il apporté à la musique de son temps et à la musique contemporaine? C'est ce que l'on découvre dans cet album de BD dessiné par Alexis Cavaillez sur un scénario de deux invités, le pianiste et musicologue Carole Beffa, élu meilleur compositeur aux Victoires de la Musique 2013 et 2018, et Guillaume Métayer, poète, traducteur et chargé de recherche au CNRS. Ravel, un imaginaire musical, est une coédition Seuil Delcourt, et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Carole Beffa.
Bonjour.
Bonjour Guillaume Métayer.
Bonjour.
Sauf erreur de ma part, c'est votre premier album de bande dessinée à tous les deux. Hein.
Tout à fait, oui. Pas le dernier, mais c'est bien le premier.
Pas le dernier, c'est tout le malheur que je vous souhaite. Alors ma première question, elle va être double. Carole Beffa, pourquoi Ravel? Puisque je crois que c'est vous qui êtes à l'initiative du projet. Pourquoi Ravel et pourquoi le faire en bande dessinée?
Pourquoi Ravel? Parce que c'est probablement avec Bach, et pour des raisons presque opposées, mon compositeur préféré. Bach, c'est l'homme d'une certaine austérité, parfois, pas toujours. C'est l'homme du contrepoint. Ravel, c'est plutôt l'homme de l'harmonie, c'est-à-dire de l'enchaînement des accords. C'est souvent l'homme de la très grande sensibilité, de la suavité orchestrale et harmonique. Et pourquoi en bande dessinée? Parce que je pense que c'est un médium qui permet de vulgariser de façon efficace, sensible et, à vrai dire, toujours imaginative. Et j'avais envie depuis un certain temps d'écrire une bande dessinée ou un roman graphique, c'est selon. Et j'ai pensé que Ravel serait le bon personnage autour duquel commencer.
Et donc vous avez pensé à Alexis Cavaillez et Guillaume Métayer, comment ça s'est passé?
Alors pour ce qui est d'Alexis Cavaillez, c'est le Seuil et Delcourt, les co-éditeurs du livre, qui nous ont présenté. Et quant à Guillaume, c'est un ami de très longue date, de 25 ans je crois. On aime écrire ensemble. Guillaume est capable d'écrire, j'allais dire, dans toutes les langues. Oui, c'est vrai aussi qu'il est aussi traducteur à la fois du hongrois et de l'allemand, mais il pourrait traduire aussi du latin et du grec, entre autres choses. Et puis, c'est un touche-à-tout de génie qui aime porter toutes les plumes, et donc je pensais que c'était l'homme de la situation.
Alors voilà. C'est intéressant que vous parliez tout de suite de la traduction, parce que la question évidemment que l'on se pose lorsqu'on compose, c'est le cas de le dire, une biographie musicale, c'est de traduire la musique et de les traduire en dessin. Et c'est un petit peu ce que fait Alexis Cavaillez, hein, Guillaume Métayer. Comment traduire les harmonies de Ravel? Comment traduire à la fois sa science, les émotions que sa musique peut inspiré à travers le dessin?
Alors ça, c'est une question qu'il faudrait poser à Alexis Cavaillez.
Oui, alors il n'est pas avec nous, et c'est d'autant plus intéressant qu'Alexis Cavaillez souffre d'un handicap. Il est sourd-muet.
Exactement.
C'est la raison pour laquelle, évidemment, il n'a pas pu vous accompagner dans ce studio. Mais alors justement, on se dit que dessiner la musique quand on est sourd profond, y compris quand on est appareillé, c'est quand même un sacré challenge.
Alors c'est un sacré challenge, comme vous dites, et c'est vrai que nous avons, nous, d'une certaine façon, traduit la musique pour qu'Alexis la traduise. On lui a traduit en mots, on lui a traduit en paroles, et lui l'a traduite en dessin.
Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez pris une œuvre de Ravel, par exemple, que vous avez décrit les notes, les émotions que ça générait. À quoi ça ressemble une feuille que vous avez justement transmise à Alexis Cavaillez?
On lui a traduit d'une certaine façon par le langage. On a essayé d'imiter par le langage, de lui montrer, de lui faire voir d'une certaine façon et entendre les œuvres de Ravel. Il en reste des traces dans la BD. Il y a des moments où on décrit les œuvres, alors avec tout le savoir musicologique de Carole, toute sa sensibilité musicale, et puis en essayant de trouver des mots, de traduire donc.
Et pour ce faire, vous vous êtes basé sur quoi, Carole Beffa? Sur des écrits de Ravel, ou c'est vraiment votre connaissance à vous et votre sensibilité qui parlait?
C'est plutôt ma connaissance et ma sensibilité, à vrai dire la nôtre, hein, puisque pas besoin d'avoir des connaissances forcément musicologiques pour goûter la musique de Ravel. C'est l'avantage de ce compositeur, qui est un compositeur que tout le monde peut apprécier, que tout le monde apprécie. C'est pas un hasard, encore une fois, si le boléro que vous avez justement ouvert, eh bien, c'est l'œuvre qui est le plus jouée dans le monde quand elle était encore une œuvre qui n'était pas tombée dans le domaine public. Il n'y a pas une seconde qui se passe sans que dans le monde, quelque part, le Bolero soit joué, ce qui est quand même très impressionnant. C'est aussi une musique qui suscite des images mentales. Et je pense que parce qu'elle suscite ces images mentales, Alexis Cavaillez était à même de pouvoir les apprécier. Je précise par ailleurs que c'est vrai, il est sourd. Il n'est pas sourd de naissance. Il a eu l'occasion d'assister à des concerts quand il était très jeune enfant, Sal Playel notamment. Il en garde de très bons souvenirs. Et bien appareillé, il peut entendre un petit peu les cordes, moins les vents, beaucoup moins la voix chantée. Mais c'était quand même l'occasion pour lui de s'essayer une chose. Et donc nous lui décrivions ce que peut être une musique qui est certes une musique du sentiment, mais aussi beaucoup une musique de la sensation. Ravel, c'est un compositeur qu'on peut ressentir physiquement en soi. C'est le cas du Bolero, qui a ce côté très hypnotique. Et puis avec cette espèce d'immense crescendo, c'est une chose qu'on peut effectivement ressentir, dont le déroulement temporel dans ce qu'il peut avoir d'amplificatoire à quelque chose de proprement jouissif. Et donc, par nos mots, en lui écrivant, lui envoyant des mails, on essayait de lui faire comprendre ce que c'était que cette musique.
Et c'est vrai que cette musique, elle apparaît aussi dans le mouvement des mains de vos personnages, et singulièrement du personnage de Ravel, mais aussi dans ses rêves, dans son imaginaire. Il y a des pages, Guillaume Métayer, qui sont extrêmement foisonnantes. Alors tout, c'est en noir et blanc déjà, donc ça aussi c'était un choix qui semblait évident. Ravel a une musique en noir et blanc, on aurait pu penser qu'il y aurait une musique plutôt colorée, non ?
Oui, mais justement, c'est un peu de la question de la traduction que vous posiez. C'est-à-dire, oui. Comment est-ce qu'on traduit les couleurs? On peut les traduire par du noir et blanc, d'une certaine façon. Peut-être le noir et le blanc des touches du piano aussi, une sorte d'allusion discrète. Par ailleurs, la dernière partie de la BD est en couleur. C'est un texte pur, hein, pur
là,
texte
là,
littéraire.
Il n'y a plus de dessin au sens bande dessinée. Il y a des dessins d'illustration.
Exactement.
D'un texte. Tapé à la machine.
Voilà, et donc il y a un moment où arrive la couleur. Hein. C'est une espèce de d'apparition de la couleur à la fin de la bande dessinée. Mais oui, je crois que l'idée était aussi d'une certaine façon d'épouser les flashbacks du récit de la vie de Ravel, et par ce noir et blanc de montrer qu'on se situait dans une sorte de présent-passé.
Alors le choix narratif que vous avez fait, c'est de faire un récit à deux voix, la voix de Ravel et celle de son ami et disciple Alexis Roland Manuel. C'est à lui que le personnage, qui sent venir la fin, il est malade, il se sent pas très très bien, et donc il va raconter son histoire. On est vraiment au soir de sa vie. Il y a une série d'entretiens entre les deux personnages que vous racontez, entretiens qui se déroulent dans la maison, dans le jardin, sur le belvédère également de la maison de Ravel à Montfort-l'Amaury. Ça se trouve région parisienne, dans le département des Yvelines. Pourquoi avez-vous choisi justement de raconter l'histoire de Ravel à travers les questions, à travers les mots, à travers le regard d'Alexis Roland Manuel?
Je crois que le lecteur avait besoin d'un guide. C'est un petit peu comme dans la comédie de Dante, où Dante va traverser l'enfer, le paradis, le purgatoire, enfin plutôt le purgatoire, le paradis dans le bon sens, guidé par Virgile. Là, je crois que le lecteur avait besoin d'être guidé par quelqu'un qui le représente d'une certaine façon, qui est un disciple de Ravel, très admiratif de Ravel, mais qui a aussi sa propre personnalité musicale. Et d'ailleurs, il y a une amitié qui est bien sensible entre les deux personnages. Ravel, qui était quelqu'un de très réservé.
Oui, assez austère. Hein, même physiquement, ça se voit dans son visage.
Austère, assez secret, effectivement.
Secret, oui.
Donc il fallait franchir la barrière.
C'est un peu notre guide, c'est un peu notre messager, c'est un petit peu l'intermédiaire entre nous et Ravel.
Mais tout ça, c'était aussi la pure fiction. C'est-à-dire que tous les propos que nous prêtons à Roland Manuel, c'est le pur produit de notre imagination. On a voulu, effectivement, que ce roman graphique soit graphique certes, mais aussi un peu romanesque, c'est-à-dire qu'il y ait toute cette part de fantaisie, d'imagination que la dernière partie, avec ses couleurs, permet d'avoir.
Mais alors justement, si vous me passez le jeu de mots un peu facile, Guillaume Métayer, est-ce que Ravel est-il un beau héros? Est-ce que réellement c'est un personnage suffisamment romanesque pour exister tel qu'en lui-même, au-delà de sa musique?
Ah, quand même, c'est un personnage assez exceptionnel. Vous parliez tout à l'heure de son austérité. En fait, c'est plutôt une sorte de perfectionnisme de tous les instants, de tous les aspects de la vie. Par exemple, sur la façon de s'habiller de Ravel, c'était une sorte de dandy qui a vécu tiré à quatre épingles et qui, en même temps, dans cette rigueur, est un homme d'une grande ouverture d'esprit. Ça, c'est quelque chose d'assez, d'assez fascinant.
Oui, il est très curieux.
Il voyage beaucoup.
Il voyage énormément.
Il différentes cultures. Enfin, c'est un personnage.
Il y a un petit côté, alors, épicurien, c'est peut-être pas tout à fait le mot, mais enfin, il goûte les plaisirs d'un bon vin, d'un bon repas. Hein. Ça reste quand même de
bonne chair, vin, vous avez raison. Et puis, ce goût pour les bibelots qui viennent de partout, qui fait que sa maison est devenue une espèce d'incroyable bric-à-brac.
Il y a un petit côté cabinet de curiosité.
Il y a un vrai côté cabinet de curiosité, raison pour laquelle d'ailleurs sa maison se visite aujourd'hui, et nous avons eu la chance de la visiter plusieurs fois. C'est magique, c'est un petit côté maison de poupée. Ravel était de petite taille, de très petite taille.
Il en souffrait à plusieurs reprises, on le sent entre les lignes de
la BD. Ce qui était aussi pour nous une façon de rapprocher sa petite taille de son goût pour l'enfance. C'est quelqu'un qui a écrit pour les enfants, qui a écrit L'enfant et le sortilège, et qui est resté ce grand enfant teinté de génie dont parle Baudelaire, c'est-à-dire l'idée que effectivement tous les ports de son génie passent par le ressouvenir, par ce qu'il a été auparavant, parce qu'il ne sera plus, et il a toujours une certaine nostalgie de cet âge dont on sent qu'il l'a goûté à plein et qu'il était très heureux alors qu'il était auprès de ses deux parents qu'il adorait, de son frère qu'il adorait, qui lui a survécu et qui a fait beaucoup pour sa mémoire et son image.
Alors, il y a les réminiscences de l'enfance effectivement, et puis on se dit quand même en feuilletant l'album qu'il y a un petit côté un peu vieux garçon, parce qu'il n'y a pas de liaison, il n'y a pas de femme, il n'y a pas d'homme non plus, il n'y a pas réellement d'histoire d'amour. Alors vous évoquez dans la dernière partie du livre des rumeurs de recours à la prostitution, des rumeurs d'homosexualité, mais c'est pas du tout sur ce terrain-là que vous avez choisi d'engager votre lecteur.
Non, pas du tout. Pas d'enquête sur la sexualité de Ravel ou sa vie amoureuse ou sentimentale, parce que je crois qu'il n'y a rien, en fait. Il n'y a rien. C'est quelqu'un qui, visiblement, s'est dévoué corps et âme à la création artistique et musicale.
Et il l'a d'ailleurs dit, d'une certaine façon, mon seul amour, c'est la musique. Et puis, alors, il y a ces histoires qu'on raconte. Il avait une très grande amie, Hélène Journomorange, violoniste, extraordinaire violoniste. Il lui fait une demande en mariage. Elle dit, écoutez, Ravel, vous n'y songez pas. Comme si elle pensait qu'il était l'auteur d'une blague quand il fait cette demande en mariage. Ça n'était peut-être pas le cas, mais si c'était le cas, le pauvre, j'imagine qu'il s'est senti éconduit. Donc ça a coupé court à toute velléité. C'est vrai, ça reste un mystère. On ne connaît pas d'amant ni d'amante. C'est quelque chose que nous avons voulu mettre précisément dans la bouche de Roland Manuel, parce que Ravel lui-même était trop secret pour se livrer sur ces questions. Le fait de confier éventuellement à un autre, mais encore une fois c'est une prosopopée, hein, on imagine ce qu'il aurait pu écrire, mais c'est le pur produit de notre imagination. Le fait de confier à quelqu'un d'autre des choses que Ravel ne pouvait pas dire, c'est l'occasion aussi de faire son portrait physique et moral. Cette petite taille qui faisait dire de lui par Colette qu'il ressemblait à un écureuil, toutes ces petites touches qui sont extrêmement touchantes et qui font, je pense, que Ravel est vraiment le compositeur avec qui n'importe qui aurait adoré pouvoir dîner, passer des vacances, boire une bonne bouteille de vin. C'est ce qu'on a aussi essayé de mettre à côté de cette exploration de son univers musical qui est évidemment aussi la grande chose de sa vie.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
VMDN avec Carole Beffa et Guillaume Métayer qui publie chez Delcourt en coédition avec Le Seuil, Ravel, un imaginaire musical avec les dessins d'Alexis Cavaillès. Ravel qui naît en 1875 à Cibourg, on est au Pays Basque, d'une mère espagnole et d'un père suisse, ingénieur et inventeur. Alors vous expliquez dans le début de l'album que c'est lui qui transmet à son fils le goût de la musique, notamment sa rigueur, sa précision, la poésie des mécanismes de précision, comme vous l'écrivez joliment. Et c'est-à-dire, Carole Beffa, que Ravel concevait la musique comme de l'horlogerie suisse.
Alors, on lui a reproché parfois, on a dit, de façon peut-être un peu méchante, qu'il écrivait une musique d'horloger suisse. En réalité, pour cet amoureux du détail, de la précision pour cet homme qui aimait les partitions parfaitement écrites et qui avait lui-même une très belle écriture, à la fois son écriture quand il écrit des notes et quand il écrit des mots. Eh bien, il y a, je pense, finalement un compliment à lui faire, qui est celui de n'être jamais du côté du laisser-aller, ce qui ne bride jamais sa fantaisie. On pourrait faire sien ce principe, on va dire, qui a été ensuite celui d'un groupe de poètes qui s'appelle Louis Lippo, ouvreur de littérature potentielle, qui prétend que la contrainte libère. Et chez Ravel, oui, la contrainte libère. C'est-à-dire que vous prenez toutes les œuvres, on a écouté un bout du Boléro. Le Boléro, c'est ce défi incroyable que s'est fixé Ravel de réussir en un crescendo phénoménal orchestral qui dure 17 minutes, de nous tenir en haleine, alors que nous n'avons que deux thèmes, deux misérables, entre guillemets, thèmes, alors qu'ils sont évidemment sublimes. Concerto pour la main gauche, son titre parle de lui-même. Réussir à faire en sorte qu'on ait l'impression que les deux mains jouent alors que seule une, la main gauche, joue. Toutes les œuvres de Ravel sont des gageurs et je pense que chez ce compositeur, oui, il y a un souci de la perfection qui est poussé à un tel degré de sophistication qu'il devient génie. C'est le compositeur chez qui le talent paraît tellement démultiplié qu'il touche au génie. Et c'est ça qui fait vraiment sa force.
Alors vous racontez la découverte du piano par le petit Maurice, fraîchement débarqué à Paris, les premiers cours de musique avec son ami d'enfance Ricardo Vignès. Colette, qu'on a déjà cité depuis le début de l'émission, disait de lui qu'il avait des mains délicates de rongeur et même, ajoutez-vous, des pouces d'étrangleur. Ça devait en faire un interprète un petit peu décevant, non, Carole Beffa?
Mais quand il fait une tournée dont on parle avec les superbes images d'Alexis Cavaillès aux États-Unis, donc extrême fin 1927, premier mois de 1928, on aimerait qu'il joue ces deux concertos pour piano qui sont spectaculaires, mais non, il préfère jouer la sonatine parce que il a compris assez tôt que il était certes un pianiste tout à fait honorable, mais qu'il était avant tout un compositeur. Il préfère composer, il laisse à d'autres le soin de jouer sa propre musique, et même s'il compose au piano, même s'il orchestre au piano, même si le piano est son laboratoire, c'est avant tout un compositeur.
Et donc le piano, c'est un instrument d'exploration, un instrument d'expérimentation, un instrument de défi, hein, comme vous venez de le dire. Encouragé, Ravel, par trois grands noms aussi de la musique, Emmanuel Chabrier, Éric Satie surtout et Gabriel Fauré. Dans quelle mesure ces trois grands noms l'ont réellement influencé, Carole Beffa?
D'abord, ces trois personnages intéressants. On va dire que Fauré, c'est un peu l'exemple même de l'ascension possible sous la Troisième République. Apaméen, donc né à Pamiers, qui va devenir finalement, alors qu'il n'est pas passé par le Conservatoire de Paris, professeur de composition puis directeur du Conservatoire de Paris, justement après l'affaire Ravel, 1905, je le rappelle à nos auditeurs, Ravel, pour sa cinquième présentation consécutive au prix de Rome, qui aurait pu lui assurer une certaine sécurité matérielle, il aurait été logé, blanchi, nourri et payé à Rome, eh bien, non seulement il échoue, mais il ne passe même pas les éliminatoires, ce qui crée un scandale, et finalement, on peut dire qu'il y a eu ce qu'on n'appelait pas encore le buzz, mais qui fait qu'il devient connu du jour au lendemain. Et c'est une très bonne chose pour lui que cet échec, très relatif. Donc ça, c'est Fauré. Fauré qui l'influence pour un certain goût pour la modalité, je ne vais pas entrer trop dans les détails, mais pour son inscription dans cette musique française, dans ce qu'elle peut avoir, encore une fois, de chaleureuse, avec un goût des textures et des harmonies toujours raffinées. Satie, c'est plutôt, alors là, on a affaire à quelqu'un d'autre qui est extrêmement bohème, toujours mal sapé et pourtant dandy à sa façon. Quelqu'un qui habitait Arcueil, qui ne voyageait qu'à pied, qui refusait très souvent de rentrer en taxi, qui était toujours sans le sou, et qui, pour la musique, est plutôt le compositeur à la marge, le compositeur bohème lui aussi à sa façon, qui influence Ravel dans la façon qu'a Ravel toujours de ne jamais se contenter de peu, mais d'essayer toujours d'aller voir un peu plus. Pourquoi toutes les œuvres de Ravel sont géniales? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de déchets dans sa production? Peut-être parce que il a d'une certaine façon retenu la leçon de Satie, qui est d'être toujours autre, de se renouveler. Et puis le dernier, Chabrier, étonnant, c'est un fonctionnaire dans un ministère qui est d'une certaine façon un autodidacte, mais parfait autodidacte, et qui a écrit notamment Espagna, et l'Espagne qu'on a entendu ici avec ses relents magiques de la rhapsodie espagnole, c'est évidemment cette terre de soleil et de Méditerranée qui a tellement influencé Ravel.
Alors, on évoquait à l'instant avec Carole Beffa l'affaire de Rome, le scandale du prix de Rome. C'est effectivement, alors c'est assez drôle parce que c'est un élément majeur de sa biographie, mais vous l'évoquez en trois quarts de page à peine, hein, Guillaume Métayer. Comment est-ce que vous avez construit justement votre récit ? Parce qu'on est à la fois dans l'intime, dans le récit de vie, dans la création des différentes œuvres qui marqueront la vie de Ravel et l'histoire de la musique, dans ses influences, dans ses rencontres. Enfin, vous aviez une mine d'informations absolument foisonnante. Comment vous avez orchestré tout ça ?
Eh bien donc, on a orchestré tout ça notamment avec ce dialogue avec son disciple dont on parlait tout à l'heure, Roland Manuel, bien entendu, donc des sortes de flashbacks, de récits.
Mais parce qu'on n'est pas dans la chronologie,
on n'est pas dans la linéarité de la chronologie, il y a des allers-retours, et on a aussi tissé un certain nombre de métaphores, je dirais d'images, notamment la métaphore de la traversée. On a essayé de montrer comment finalement Ravel traverse le siècle. Comment il traverse la vie. Alors il est dans sa maison de Montfort-l'Amaury, qui est une sorte de paquebot, et il a toujours des maisons qui ressemblent à des bateaux, qu'il a rempli justement comme une sorte de cabine, de capitaine, de plein de petits bibelots qui évoquent eux-mêmes les bateaux. Il y a des sortes comme ça de mise en abîme dans les dessins d'Alexis Cavaillès qui sont très beaux, un bateau dans une espèce de petite sous une cloche, etc. Et on a toute cette idée aussi de celui qui s'en va, qui part en voyage parce que c'est le dernier voyage. C'est un Ravel malade qui raconte sa vie à son disciple. Ça a été une façon pour nous de montrer un Ravel en traversée aussi des frontières musicales, des frontières esthétiques, artistiques, culturelles. Hein. Par exemple, quand Ravel s'inspire des traductions de poèmes malgaches faits par Évariste de Parny au XVIIIe siècle, dans les chansons Madécas, quand Ravel part à New York, là aussi c'est une traversée, la traversée transatlantique, c'est très important. On parlait de paquebot tout à l'heure, et là il va rencontrer Gershwin, il va s'inspirer du jazz, d'ailleurs il a un animal, un chat qui s'appelle Jazz, donc c'est quand même, c'est tout ça, c'est le Ravel intime, qu'on a essayé de montrer par là. Voilà, c'est un petit peu comme ça que nous avons essayé de décrire sa vie.
Oui, c'est incroyable le nombre de gens qui ont compté dans le milieu culturel à l'époque, dans les milieux
tout
culturels, hein, parce qu'il y a la musique, mais il y a aussi la poésie, il y a la littérature, il y a la peinture aussi. Mmh. Par exemple, vous racontez, puisqu'on évoquait Gabriel Fauré il y a un instant, comment Fauré introduit Maurice Ravel dans les salons parisiens. Il croise Debussy, il croise Messager, il croise Colette, il croise Isa de Radincamp, la grande danseuse. Est-ce qu'on peut dire, Carole Beffa, que c'était un mondain ?
Il avait à la fois horreur de la mondanité, une de ses premières réactions lorsqu'il est invité des Saint-Marceau, donc dans un salon qui ouvre bien des portes, auquel il est convié grâce à Fauré, c'est de dire que ses hôtes ne sont pas seulement snobs, mais ils sont très snobs. Donc c'est quelqu'un qui aime franchement la camaraderie, féminine et masculine. C'est quelqu'un qui, effectivement, connaît tous les peintres, tous les grands écrivains de son temps, qui a aussi quelques amitiés politiques, d'ailleurs, et qui a des idées politiques assez avancées, très grand Dreyfusard, et ensuite qui fera beaucoup pour rapprocher les peuples et pour lancer des appels au cosmopolitisme, là où, par exemple, son quasi-contemporain Debussy, lui, se mure dans un nationalisme anti-allemand intransigeant. Lui, c'est pas du tout ça. Donc, je suis pas sûr qu'il soit mondain. C'est un homme qui aime bien vivre. C'est un bon vivant qui aime fréquenter des personnes qui lui plaisent et qui est très fidèle en amitié.
Alors Debussy, justement, puisqu'on évoquait Debussy, Guillaume Métayer, il va défendre Debussy et son Péléas et Mélisande, hein, dans une sorte de version musicale de la bataille d'Hernani. Hein, c'est un petit peu comme ça qu'on pourrait l'expliquer. Oui. C'est vous qui faites la comparaison dans l'album. Hein. Et il va le faire avec ses amis, une bande d'amis qui s'appelle les Apaches. Alors là, il faut que vous nous expliquiez, parce que vous le faites dans l'album, pourquoi les Apaches, pourquoi ce nom-là?
Alors en effet, si Ravel est... Vous posiez la question de savoir si Ravel était mondain. Il était surtout, Carole le sous-entendait tout à l'heure, c'était surtout un excellent camarade.
C'est un homme de bande. Hein.
C'était un homme de bande qui avait des amis artistes. Au fond, c'est quand même toute cette tradition romantique de l'artiste qui épate le bourgeois. Et là, c'est pour ça que vous parliez d'Hernani tout à l'heure, c'est tout à fait ça. Donc ce sont des artistes, il y a une bande d'artistes qui se sont appelés les Apaches parce qu'ils ont bousculé quelqu'un dans la rue de Rome.
Et Apache, un marchand de journaux.
Hein. Un marchand de journaux, exactement. Et Apache, ça voulait un peu dire voyou. Alors le type a crié « Attention les Apaches !» marche. Et finalement, comme ça arrive très souvent d'ailleurs dans l'histoire, le groupe a repris à son compte l'accusation qui avait été proférée dans la rue de Rome par ce marchand de journaux. Ils sont devenus un groupe qui se réunissait, qui faisait des soirées musicales, poétiques. On les a représentés comme des apaches, des vrais de western, si je puis dire, avec des plumes, etc., pour montrer que tous ces artistes étaient un peu des bohèmes très libres.
Alors, la question s'était posée, hein, parce que Alexis Cavaillès, notre dessinateur, se demandait qu'est-ce qu'il pouvait dessiner comme instrument à part des pianos. Il disait, mais est-ce que l'un d'entre eux jouait, je sais pas, de la flûte, de la clarinette, du violon? Il dit, ben non, à notre connaissance, non. Et donc, il s'est dit, eh ben, allons jusqu'au bout. Il les a effectivement dessinés dans une superbe planche en apache, proprement dit, c'est-à-dire en peau rouge. Et je voudrais rendre hommage d'ailleurs à son dessin et à sa plume toujours acérée qui sait être tantôt extrêmement réaliste. Et c'est magique quand il s'agit de New York et de ses buildings. C'est magique quand il s'agit d'écrire Montfort, la Maurie, cet intérieur incroyable. Et de temps en temps, on quitte totalement, via la fantaisie, cet univers-là pour plonger du côté du merveilleux et du fantastique. Et chez l'homme des sortilèges qui Ravel, c'est évidemment extrêmement précieux.
C'est l'Orchestre Philharmonique de Berlin, dirigé ici par Pierre Boulez, qui interprète ici quelques notes de la danse du rouet du ballet de Marmerois, composé en 1908 par Maurice Ravel, d'après le conte de Perrault, pour évoquer avec nos invités Carole Beffa et Guillaume Métayer la famille Godebski, les parents et les enfants Mimi et Jean, qui appelaient Maurice Ravel tonton Momo. Hein, c'est pour eux. Hein. Enfin, en tout cas, c'est ce que vous dites de la bande dessinée. Vous confirmez, vous n'avez pas pu inventer un petit détail ici.
Alors, Rara, ça c'est confirmé. C'était plutôt ses amis, d'ailleurs, c'était les Apache qu'il appelait Rara. Momo, c'est un peu le produit de notre imagination.
Alors, parce que tonton Momo, ça sonnait vraiment très très bien.
Ça sonnait trop bien.
Bon, en tout cas, c'est pour ses enfants, là, donc, Ravel a composé toute cette série de pièces enfantines pour piano à quatre mains. Et je crois d'ailleurs, Carole Beffa, que Mamerlois, c'est votre première rencontre musicale avec Ravel.
Tout à fait. Quand je devais avoir 8 ou 9 ans, avec mon frère qui a un an et demi de plus que moi, nous jouions à quatre mains. Et j'étais en haut, c'est-à-dire que je faisais la partie supérieure, lui était dans les graves. Et ce faisant, c'était à moi qu'incombait de jouer le thème de la belle et à lui celui de la bête. Je pense que si il l'avait su, il aurait été très déçu de l'apprendre et très fâché. Mais nous ne le savions pas encore, nous ne l'avions pas encore tout à fait deviné.
Alors l'enfance, hein, c'est, on l'a dit, une source majeure d'inspiration pour Ravel. Guillaume Métayer, Alexis Cavaillès dessinent le bestiaire de Ravel dans ses histoires naturelles. Il y a des chats siamois, des oiseaux, il y a pas mal de créatures imaginaires. Hein. Il y a des licornes, il y a des ours en peluche, il y a Pinocchio, il y a beaucoup de jouets en bois, hein, référence aussi à l'enfant et les sortilèges. Il y a les contes, mais il y a aussi la poésie, hein, qu'elle soit en prose et en vers. Et vous dites d'ailleurs, Guillaume Métayer, dans le petit dossier qui suit dans l'album, le récit proprement dit, vous écrivez, je cite, que pour un amoureux de la poésie, et c'est bien ce que vous êtes, pour un amoureux de la poésie, Ravel est le musicien idéal. Pourquoi ?
Oui, parce qu'en fait, Ravel non seulement a mis en musique un certain nombre de poètes, notamment Mallarmé, qui n'est quand même pas un poète très facile.
Certes, hein, non.
Il a mis en musique des poètes contemporains, hein, de son temps, Henri de Régnier, Léon-Paul Fargue, etc. Il a mis en musique Marot, il a mis en musique Verlaine. C'est un compositeur qui a mis en musique des poètes, mais aussi qui s'est laissé inspirer par le langage. C'est-à-dire qu'il parle d'une phrase, une simple phrase, un vers de Léon-Paul Fargue, de Henri de Régnier, etc. Et il en fait une musique. Et ça, c'est tout à fait étonnant. C'est vraiment un compositeur-poète, d'une certaine façon. Un compositeur à partir de la poésie. Par exemple, la pavane de la Fonte des Feintes, c'est uniquement des allitérations qu'il a créées et à partir desquelles il a inventé une musique, à partir du langage.
Mais si vous prenez la série des miroirs aussi, chacun est dédié à l'un de ses amis, donc c'est vraiment l'œuvre des Apaches, pour les Apaches, eh bien il va prendre le prétexte d'un vers de l'un d'entre eux, et ce vers, parfois certains vers sont incroyables. Il est question de poutres qui vont être cravachées par un animal, par un oiseau, bon, une noctuelle en l'occurrence. C'est incroyable. D'abord, aujourd'hui, plus grand monde sait ce que c'est que des noctuelles. Donc vous allez avec un plaisir gourmand regarder dans le dictionnaire ce que c'est. Et puis écouter cette œuvre.
Merci de nous y envoyer.
Écoutez cette œuvre qui est absolument magique. Encore une fois, chez Ravel, toutes les œuvres sont géniales. C'est pour ça que j'invite nos auditeurs.
Mais comment s'imprégner justement de la musique de Ravel ? Est-ce que c'est une musique de suggestion, une musique d'impression, d'évocation ?
Les trois, mon général. Pourquoi ? Parce que si vous prenez la plupart des œuvres de, on va dire, la première période, c'est-à-dire celle antérieure à 1914, c'est vraiment le Ravel des sortilèges. Même s'il n'a pas encore écrit L'enfant et le sortilège, c'est ce Ravel certes souvent taquin, mais surtout sensuel, étonnamment sensuel, et chez qui les émotions naissent plutôt d'un contact presque physique, de la sensation, plus encore que du sentiment. Par la suite, Ravel, comme la plupart des compositeurs, est sensible à la vogue de son temps, qui est le néoclassicisme. Donc il va redécouvrir des formes anciennes. C'est le tombeau de Couperin qu'il écrit, et donc chacun des mouvements est dédié à une connaissance ou un ami mort à la guerre. Et puis ça va être les deux concertos. Alors c'est un Ravel plus crépusculaire, plus tragique parfois. Vous avez pratiquement toujours dans ce Ravel-là, à peu près aux deux tiers de l'œuvre, ce moment, effectivement, où on a l'impression que l'ombre de la tragédie est présente. Et puis, ça n'est qu'une ombre. Et l'œuvre va continuer de se dérouler dans un contexte finalement assez différent. Si vous prenez ce qu'on vient d'entendre là, donc là c'est encore le premier Ravel, mais dans cette danse du rouet, elle nous rappelle une chose qui est que Ravel est toujours éminemment chorégraphique. Vous avez cité Isidora Duncan, on pourrait citer toutes ses œuvres. Le Boléro est une danse aussi. Elle a été incroyablement bien mise en danse par Bijard et par d'autres. Cela vaut pour à peu près tout Ravel. Donc Ravel, c'est le compositeur incroyablement sophistiqué et dont la musique est pourtant incroyablement accessible.
Alors justement, son œuvre la plus connue, on l'a citée à plusieurs reprises depuis le début de cette émission, c'est évidemment le Boléro. C'est d'ailleurs avec lui, hein, Guillaume Métayer, que vous terminez l'album. Vous êtes musicien vous-même, Guillaume Métayer ?
J'ai fait du piano. Oui.
Alors qu'est-ce que vous ressentez quand vous entendez ça, quand vous entendez le Boléro de Ravel ? L'un des plus grands tubes de la musique classique, je le répète.
Eh bien, je reviens un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire la capacité de la musique de Ravel à créer des images. C'est-à-dire que vraiment, c'est vraiment un imaginaire musical. Je peux, et à chaque fois, le Boléro, par exemple, ou d'autres de ses œuvres, créent dans l'imaginaire, de nouvelles images, de nouvelles choses qui défilent devant les yeux de l'âme, si on peut dire, ou de l'esprit. Et pour le Boléro, par exemple, parfois je vois une espèce de farandole, une sorte de grande marche du progrès, de plus en plus colorée, de plus en plus complexe. Voilà, à d'autres moments je la vois plus optimiste, à d'autres moments plus ironique. Enfin, c'est à chaque réécoute, une autre histoire et un autre imaginaire.
Alors il y a cette phrase dans l'album qui, hors contexte, Carole Beffa, sonne un peu comme une provocation. Le Boléro, c'est Ravel qui parle, hein. Le Boléro est sans doute le seul chef-d'œuvre que j'ai jamais écrit. Bon, jusque-là, pour aller vite, pourquoi pas. Malheureusement, ajoute-t-il, il ne contient pas de musique. Voilà, il faut que vous m'expliquiez. Il n'y a pas de musique là, dans ce qu'on entend en ce moment.
Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire que sur, encore une fois, ces 17 minutes ou à peu près que compte l'œuvre, vous avez en réalité simplement un thème, en réalité plutôt deux, complémentaires l'un de l'autre, qui sont donnés à entendre dans une amplification croissante qui vous prend aux tripes. Et ça n'est que ça, cette musique. C'est-à-dire la musique est incroyablement simple, je ne vais pas dire pauvre, mais incroyablement simple. Simplement, il fallait un génie comme Ravel, un maître de l'orchestration, qui soit capable de nous faire entendre successivement tous les instruments, et des instruments rares, que vous avez, comme le saxophone qui fait son apparition, comme un hautbois un peu particulier, qui est le hautbois d'amour, tout ça pour suggérer effectivement cette marche du progrès. L'image de Guillaume est assez bonne. Alors, pas de musique. Bien sûr, il y a quelque chose d'un peu provocateur, mais Ravel était un provocateur. Cela, il l'avait hérité, encore une fois, de Satie. Et oui, je comprends tout à fait ce qu'il a voulu dire quand il l'a dit.
Alors on en arrive à l'interprétation de Ravel, messieurs, parce que vous faites dire à Ravel dans l'album, ma musique, il suffit de la jouer comme elle est, ni plus ni moins. Il suffit, Carole Beffa. C'est facile à jouer, Ravel ?
D'abord, c'est pas très facile. Vous avez raison. Alors, l'homme des défis a par ailleurs voulu écrire une œuvre qui soit plus difficile que l'œuvre qui passait pour la plus difficile en son temps, Islamé de Balakirev, donc un des compositeurs du groupe des cinq, et Ravel décide, lui, d'écrire Scarbo, qui est effectivement une œuvre qui n'est pas tout à fait à mettre entre toutes les mains, si j'ose dire. Ce qui veut dire par là, c'est que on a parfois tendance à gonfler le rôle de l'interprète, et Ravel considère que sa musique est suffisamment bien écrite, bien orchestrée, pour que, normalement, un interprète qui la ressent naturellement puisse se contenter de jouer ce qui est marqué sur la partition, et dans ce cas-là, ça va effectivement sonner comme il le veut et comme il l'entend.
Oui, il est blessé visiblement par certaines interprétations. Guillaume Métayer, vous évoquez celle de Toscanini, qui est quand même pas le,
oui,
le pire interprète du monde.
Qui n'était pas le pire interprète, non, c'est, et aussi l'interprétation de Wittgenstein.
Oui, pour le concerto pour la main gauche.
La main gauche. C'est très intéressant, cette position de Ravel. Elle est assez contre-intuitive, si je puis dire. Aujourd'hui, on ouvre beaucoup plus d'espace à l'interprète, que ce soit en traduction, on en parlait tout à l'heure, en mise en scène, hein, dans les mises en scène de spectacles, mais aussi, me semble-t-il, sous le contrôle de Carole, en musique. Alors Ravel, là, ici, est un peu sanglé, hein, et un petit peu comme ses costumes, il tient absolument à la littéralité, et c'est quelque chose qui est assez étonnant, et j'aimerais bien d'ailleurs qu'on l'inscrive dans une histoire de l'interprétation, hein, c'est musical.
Carole Beffa.
C'est une chose que son cadet, et qu'il appréciait énormément, Stravinsky, ils avaient l'un pour l'autre une admiration très forte.
Le Sacre du Printemps, hein, vous les montrez d'ailleurs tous les deux en vacances ensemble en Suisse.
Exactement.
Sur les terres de Jean-Jacques Rousseau.
Voilà, et bien Stravinsky finalement pense exactement la même chose. Stravinsky, c'est cette vision pour une musique pourtant puissamment expressive et qui nous touche tous, je crois. C'est une vision quand même assez distanciée, on va dire presque chirurgicale de l'interprétation, qui doit rester finalement à distance.
bohème, noble et sentimental. Un morceau qui figure sur votre troisième disque d'improvisation, Carole Beffa, De l'autre côté du miroir, qui est sorti il y a quelques jours à peine. Clin d'œil et hommage aux valses nobles et sentimentales de Ravel. Alors c'est de l'improvisation, hein, je le disais. Il aurait apprécié l'improvisation, Ravel?
Je crois qu'il improvisait lui-même au piano et que les idées lui venaient souvent de façon tactile, musculaire, en ayant les mains sur le piano.
Alors comment est-ce que vous êtes passé de l'œuvre de Ravel, donc de ses valses nobles et sentimentales, à ce morceau, à cette bohème noble et sentimentale?
Alors en fait, c'est un thème qui m'a été suggéré par le public. Ça a beau être enregistré en cabine, en studio, il y avait quelqu'un aux côtés de l'ingénieur du son qui me donnait comme ça un certain nombre de thèmes, certains très ciblés, Bach romantique, un qui donne aussi son nom à l'album, De l'autre côté du miroir, et puis quelque chose de plus subtil, qui est effectivement cette bohème noble et sentimentale. Bohème, je l'ai pris dans un sens effectivement d'un vagabondage musical, et puis noble et sentimental, c'est évidemment un clin d'œil à Ravel, qui lui-même fait un clin d'œil à Schubert, qui a écrit des valses nobles d'une part et sentimentales de l'autre, mais jamais l'un et l'autre.
Vous avez une tendresse particulière pour les valses de Ravel, parce que vous avez composé aussi une étude de piano à partir
Tout à fait. Ça fait partie, je pense, de ses œuvres où son génie harmonique se manifeste avec le plus d'évidence. Et par ailleurs, il en a proposé ensuite, quelques années après, une version pour orchestre, qui est aussi une leçon d'orchestration. Enfin, Ravel, c'est un compositeur que, en professionnel de la musique, j'écoute toujours avec très grand plaisir, et puis qui m'émerveille aussi comme au premier moment, comme si je découvrais la musique grâce à lui. C'est à la fois un compositeur pour fans et pour profanes.
Alors comment est-ce que vous l'écoutez, justement? Dans quelles conditions est-ce que vous écoutez? Vous poserez la question à Guillaume Métayer aussi après. Dans quelles conditions, Carole Beffa, est-ce que vous écoutez Ravel? Physiquement, dans l'atmosphère avec laquelle vous goûtez le mieux sa musique?
Alors, il peut y avoir du recueillement, presque religieux pour ce musicien que je vénère. Et puis, il peut y avoir aussi quelque chose de beaucoup plus décontracté, beaucoup plus cool. Et puis, c'est peut-être aussi, quand je suis face à mes élèves, essayer de leur faire goûter cette musique et de transmettre ma passion pour un compositeur qui ne m'a encore jamais déçu.
Guillaume Métayer.
Oui, moi, je crois que Ravel, on l'écoute, mais aussi on le voit. On pense avec lui, on ressent des choses. C'est vraiment les correspondances de Baudelaire. C'est les parfums, les couleurs et les sons se répondent.
Oui, ça correspond parfaitement effectivement à l'album. L'album qui a été dessiné, qui a été écrit en musique. Vous êtes comme ça accompagné en permanence par les notes de Baudelaire, Guillaume Métayer?
Par les notes de Baudelaire et de Ravel.
De Baudelaire et de Ravel, oui.
C'est vrai que, comme nous avons écrit avec Carole, côte à côte, hein, devant l'écran d'ordinateur, on n'a pas toujours mis de la musique de Ravel, mais on s'est souvent inspiré, on est souvent allé repuiser à la source pour pouvoir trouver l'inspiration, le bon terme, hein, parce que c'est aussi ça. C'était aussi, on a essayé de se mettre en écho avec la musique de Ravel dans notre manière d'écrire la musique.
Merci beaucoup à tous les deux d'être passés nous voir. Ravel, un imaginaire musical, par Carole Beffa, Guillaume Métayer, Alexis Cavaillez, une coédition Seuil Delcourt, album que vous pouvez gagner, vous qui nous écoutez, en répondant à la question du jour en message privé à partir de notre page Facebook. Quel était le nom du groupe de musiciens, peintres et écrivains que Ravel présente dans l'album comme des hors-la-loi, des bandits de grand chemin de la modernité et qui prétendaient lutter contre l'académisme? 5 albums sont à gagner.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Alors, on va poursuivre notre voyage à l'Asie. Vous l'avez compris, la musique, comme nous le savons tous, peut aussi être une arme politique, et la crise politique actuelle à Hong Kong en fournit un nouvel exemple. Après les immenses marches, les affrontements avec la police, les arrestations, des suicides, les mosaïques de notes adhésives sur des kilomètres de couloirs, des dizaines de stations de métro vandalisées, des chaînes humaines, le boycottage des cours, les grèves, les sit-ins, les pétitions au consulat, les blocus d'aéroports, les banderoles déroulées du sommet des collines de Hong Kong, les interventions devant les Nations Unies et auprès du Congrès américain, figurez-vous qu'un hymne vient d'être composé à la gloire de Hong Kong afin de galvaniser les manifestants. Sur place pour RFI, Florence de Changy.
On savait que les Hongkongais aimaient manifester en marchant. On savait aussi qu'ils aimaient chanter, notamment en chœur et en chorale. Désormais, ils font les deux en même temps et manifestent en chantant. Un compositeur qui a souhaité rester anonyme a mis en ligne fin août un hymne à la gloire de Hong Kong qui vient d'être produit dans une version avec chœur et orchestre. C'est un hymne vibrant et passionné, intitulé « Gloire à Hong Kong », qui reprend les principaux slogans politiques du mouvement. Le violoncelliste français Laurent Perrin donne son avis sur le morceau.
D'un point de vue musical, moi j'aime beaucoup. Je trouve que c'est très beau, dans ce sens que c'est une très belle harmonie. Très joli à écouter, ce sont des très belles harmonies, et en même temps, c'est très simple à reprendre. Moi je trouve que c'est parfait. Ça pourrait être un hymne national, hein, c'est magnifique. Donc il y a beaucoup plus d'émotion là-dedans, je trouve, que l'hymne national chinois, c'est sûr.
Un hymne national chinois que les Hongkongais rejettent d'ailleurs. Il arrive souvent qu'il soit hué lors des matchs de foot notamment, et une loi en cours vise d'ailleurs à pénaliser le non-respect de l'hymne national chinois. Cela explique en partie le sentiment d'urgence qui a animé le chef d'orchestre, un jeune musicien de 30 ans, quand il a décidé de réunir 150 musiciens volontaires dans son studio pour enregistrer la version orchestrale du morceau.
What we have to do, what we did is because we are all running against time. Because nobody knows what will happen tomorrow.
On a fait ce qu'on a fait parce qu'on se bat tous contre la montre. Personne ne sait ce qui se passera demain. Il y a des rumeurs comme quoi les masques vont être interdits. Si cette loi passe, il se peut très bien que la prochaine loi vise les musiciens. C'est toujours une lutte contre la montre. Donc, nous avons dû mettre l'orchestre au point très rapidement. Vous ne savez jamais si le soir de l'enregistrement, la police ne va pas venir frapper à votre porte, en dépit du fait que c'est complètement légal. Il y a un risque que des mafieux viennent casser mon studio, que la police arrive avec un mandat de perquisition. Ce sont des inquiétudes très réalistes et c'est pour cela que l'on a dû tout faire tellement vite.
Les musiciens hongkongais n'ignorent pas non plus le rôle politique que peut jouer la musique, d'autant que, comme le rappelle Laurent Perrin, musique et pouvoir ont toujours été étroitement liés, tout particulièrement en Chine.
On sait tous que dans tous les mouvements un peu révolutionnaires, le chant, il y a toujours eu un pouvoir du chant. Donc moi je pense réellement que même si c'est évidemment complètement à l'opposé de la violence, c'est d'une certaine façon aussi puissant que de casser une station de métro. Et au fait, probablement plus puissant à la fin. Donc je pense que ce nouvel hymne de Hong Kong, je pense, inquiète Pékin autant, sinon plus, que les démonstrations violentes qu'il y a eu dans les rues.
En fait, d'autres chants avaient déjà accompagné le mouvement depuis ses débuts, notamment l'Alléluia de Thésée ou le chant de la comédie musicale Les Misérables. Mais avec Gloire à Hong Kong, les manifestants ont désormais leur chant à eux, une pure production locale.
Reportage de Florence de Changy pour VMDN à Hong Kong. Encore quelques secondes pour féliciter les gagnants du jeu de jeudi dernier. Tanguy Bundama de Libreville au Gabon, Dimon Armand de Parakou au Bénin, Edem Gadegbekou de Lomé au Togo, Mohamed Kumbassa et Daniel Mercier-Smith de Lezou en France, dans le département du Puy-de-Dôme. Ils recevront Oumnia, le nouvel album de Swad Massi, qui était avec nous dans ce studio jeudi dernier. Dans un instant, l'info sur RFI. On se retrouve demain avec l'écrivain Sor Chalandon qui publie Une joie féroce aux éditions Grasset. Et vous m'en direz des nouvelles.